보자.
remue-ménage.
Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct depuis 17h jusqu'à 21h. Et tout de suite, de 17h à 18h30, eh bien, c'est Remue-ménage. Et Remue-ménage aujourd'hui, c'est notre quatrième émission à propos des femmes amérindiennes. Rappelez-vous que depuis le mois de février, à peu près, je ne me rappelle plus exactement les dates, mais c'est à peu près ça, j'avais décidé de consacrer une émission par mois à la vie des femmes en Amérique du Nord indienne, que ce soit leur vie autrefois ou aujourd'hui, puisque presque toujours, j'ai fait un parallèle entre ce que j'ai pu découvrir de la vie des femmes indiennes d'autrefois dans le livre écrit par Caroline Nithammer, Fille de la Terre, pardon, et puis un livre écrit par une jeune femme indienne d'aujourd'hui, enfin tout à fait d'aujourd'hui, qui est Mary Crowdog, et qui a créé ce livre à partir de ce qu'elle a vécu dans les années 70, et le titre de son livre, Lakota Woman. Aujourd'hui, ce livre est traduit en français. J'aurais plus besoin de faire de la gymnastique de vous traduire le texte anglais quasi en direct sur les ondes. Mais aujourd'hui, émission tout à fait particulière, puisque lors du dernier Salon du Livre, j'ai eu la chance de rencontrer au stand de l'Association de soutien aux nations amérindiennes Anne-Françoise Meckenstock, et à qui j'ai comme ça proposé un peu à tout hasard, mais ne viendriez-vous pas faire une émission avec moi dans Remue-ménage? Et elle m'a d'emblée dit oui. Alors Anne-Françoise, elle est là aujourd'hui en compagnie de Vera Tcheremusinov, et toutes les deux, je les remercie infiniment de s'être déplacées pour faire avec nous cette quatrième émission à propos des femmes d'Amérique du Nord. Bonjour à toutes les deux.
Ampet ou acheté?
Bonjour.
Avons-nous droit à une traduction simultanée, Françoise?
Simplement bonjour à Lakota.
Pouvez-vous redire?
Ampet ou acheté?
Voilà. Eh bien, ça vous annonce tout de suite le ton sur lequel va partir notre émission, parce que aussi bien Françoise que Vera connaissent évidemment très très bien la question des femmes, des Indiens d'abord, plus en général, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, puisque l'Association aux Nations Amérindiennes, je crois, comprend le soutien aux deux peuples d'Amérique. Mais tout de suite, nous allons bien sûr préciser qu'est-ce que cette association et dans quelles circonstances elle s'est créée. Mais je crois que nous avons besoin de nous mettre un petit peu dans l'ambiance de l'Amérique. Alors, tout de suite, de la musique. Alors, chères auditrices de Remue-ménage, je suppose que vous avez reconnu cette musique que vous avez déjà entendue tout au long des diverses émissions que je vous avais proposées, puisque je crois, Anne-Françoise, c'est de la musique du sud-ouest des États-Unis.
Oui.
Alors, peut-être, Vera, pourriez-nous d'emblée nous expliquer comment s'est créée l'Association de soutien aux nations amérindiennes dont on va dire, je crois, Asna pour la suite de la conversation. Ça raccourcira un petit peu le titre.
Oui. Vera. Alors, l'association s'est créée, l'idée de l'association est née à Lausanne en mars 1990. Et c'était lors du passage d'une délégation du International Indian Treaty Council, qui est une organisation amérindienne, à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Et cette délégation était de passage et on a organisé une rencontre à Lausanne avec différentes associations de Suisse et d'Amérique du Sud. Et l'idée de créer une association est née. Surtout sur le moment, par rapport aux festivités du 500e anniversaire de la soi-disant découverte de l'Amérique. Mais c'est clair que les choses ne s'arrêtent pas à ça. Et les objectifs de l'association se sont faits par rapport au passé, au présent et à l'avenir. C'est-à-dire par rapport au passé, il s'agit de restituer une vérité historique qui est pratiquement toujours occultée et qui est celle en fait d'une invasion de l'Amérique et d'un horrible génocide. Par rapport au présent, il s'agit de soutenir les luttes des organisations et des nations amérindiennes aujourd'hui. Et par rapport à l'avenir, de réfléchir ensemble avec les Amérindiens sur leur avenir à eux et l'avenir de la planète, parce que les deux choses sont liées.
Quand vous dites nations amérindiennes, que comprend ce terme très générique, j'imagine ?
Ben, les nations amérindiennes, c'est ce que nous, les Blancs, avons appelé des tribus ou des ethnies. Mais eux se considèrent comme des nations. Et je dois dire qu'au début, par exemple, de l'invasion de l'Amérique du Nord, les envahisseurs les ont bien considérés comme telles, puisqu'ils ont signé des traités avec elles. Et que c'est plus tard, unilatéralement, qu'il a été décidé que ces gens ne faisaient plus partie de nations et que les traités n'ont pas été respectés.
Pourquoi une association comme celle-ci, comme la vôtre, se crée en Europe ? C'est important pour les nations amérindiennes d'avoir un soutien dans divers continents, pas seulement sur le leur ?
Oui, bien sûr. Et ils ont d'abord, avec les peuples autochtones du monde, les Indiens d'Amérique ont immédiatement créé des échanges et des liens avec les peuples autochtones des autres continents et ont cherché aussi des soutiens en Europe où l'accueil leur a été assez souvent favorable.
Parce que on a des images d'actions entreprises, par exemple en Amérique du Nord, soit l'occupation du Bureau des Affaires Indiennes, soit Wounded Knee. Enfin, il y a certains événements comme ça qui sont la marche de Washington, qui sont marqués fort dans la tête des gens qui se préoccupent et qui s'intéressent au soutien des Indiens. Et puis, peut-être c'est moins clair ce que nous pouvons faire, nous, ici, en Europe, pour les aider. Alors, quels ont été très, très concrètement par rapport aux trois objectifs que vous avez donnés tout à l'heure, Vera ? Quelques-unes des actions concrètes qu'a entrepris l'ASNA depuis qu'elle s'est créée en 1990.
Oui. Alors, ce que je voulais juste dire sur ce que vous venez de dire maintenant, qu'il faut faire une différence entre ce que sont les actions des Indiens eux-mêmes sur leur territoire, sur leur terre, et que nous ne pouvons que soutenir, et puis les actions qu'on peut faire ici et que nous faisons en accord avec eux, bien sûr. Et dans ces actions, il y a par exemple une des actions que fait régulièrement l'ASNA, puisque c'est chaque semaine, chaque samedi après-midi. C'est une permanence d'information pendant laquelle nous, comme son nom l'indique, la priorité est à l'information. Et nous passons des documents vidéo, nous recevons des ethnologues ou historiens ou gens qui sont sur le terrain, ou même des Amérindiens eux-mêmes quand ils sont de passage en Europe pour s'exprimer sur leurs problèmes. Nous essayons d'être présents à différentes manifestations, en particulier par exemple au Salon du Livre à Genève. Nous organisons des conférences dans les écoles, ou même par exemple, comme ça a été le cas une fois, toute une semaine indienne. Et puis, des manifestations de soutien, des signatures de pétitions pour des actions ponctuelles, plus ponctuelles, comme par exemple le soutien à Léonard Peltier, qui est le plus ancien prisonnier d'opinion aux États-Unis, prisonnier indien.
Est-ce que je peux vous demander à toutes les deux, qu'est-ce qui a fait que vous, personnellement, vous, Anne-Françoise et vous, Vera, vous vous êtes engagées dans l'ASNA ?
Alors, je laisse la parole à Anne-Françoise et puis je le dirai après pour moi.
Bien, moi, au fond, je cherchais depuis longtemps ce genre d'association sans l'avoir trouvée, parce que depuis ma tendre enfance, je dois dire que je me passionne pour la cause indienne. Et j'ai rencontré Vera et on a immédiatement su qu'on allait bien pouvoir travailler ensemble, n'est-ce pas ?
C'est
bien.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, vous travaillez dans des villes différentes. Anne-Françoise, vous vivez à Martigny, Vera à Lausanne. C'est une association romande. Donc, comment vous vous êtes croisés ? Quel est l'objet ?
J'ai entendu parler par des circonstances assez étranges. J'ai trouvé le nom Incom Indios quelque part. Je me suis renseignée, je n'ai rien trouvé. J'ai passé par Bâle. Bâle m'a renvoyée à Wädenswil, au bord du lac de Zurich. Je suis allée rencontrer une jeune femme là qui m'a dit « Mais il vient de se créer à Lausanne une association. Je crois que vous pourriez le mieux donner quelque chose, enfin travailler là. » Et je suis allée à une permanence d'information où j'ai rencontré Vera et voilà.
Donc, depuis votre tendre enfance jusqu'à 1990, ça a été un long cheminement qui a fait que finalement, vous avez eu envie de participer à l'association.
Oui, parce que, évidemment, j'avais décidé que je vouais ma vie aux Indiens à 15 ans et ma vie a été un petit peu autrement. J'ai abouti en Afrique du Sud, mais pourquoi pas, enfin.
Alors, quant à moi, c'est la lecture d'un livre qui a été le détonateur. Mais bon, il faut dire que j'étais déjà très sensible aux problèmes des minorités culturelles. Et c'est un livre qui s'appelle « Bury My Heart at Wounded Knee » que j'ai lu en 72. Et ça a été vraiment un grand choc pour moi. Je donne la traduction en français, ça veut dire « Enterre mon cœur à Wounded Knee ». Et Wounded Knee est un lieu extrêmement symbolique pour les Indiens des États-Unis puisque c'est là qu'a eu lieu le dernier massacre des guerres indiennes en 1890. Et je venais de terminer ce livre qui avait été un grand choc. Et comme le hasard n'existe pas, 3 jours après, je rencontrais chez des amis à Genève un Indien Cherokee qui était justement en Suisse pour étudier la possibilité pour les Indiens de s'exprimer à la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Et il m'a dit lui-même, je lui ai parlé de la lecture de ce livre qui m'avait bouleversée, et il m'a dit « Mais pourquoi on ne créerait pas ici à Genève, en Suisse ?» une organisation qui nous soutiendrait. Et là, j'avais participé à la fondation d'une première association qui s'appelle Incom Indios et qui existe toujours, mais qui s'est déplacée en Suisse allemande.
Mais qui, de par son nom, ne s'intéressait pas en particulier aux Indiens d'Amérique du Sud ?
Du Nord et du Sud, si, si.
Est-ce que toutes les deux, vous avez eu l'occasion d'aller alors rencontrer sur le lieu sur lesquels ils vivent les Indiens que vous soutenez aujourd'hui par le biais de l'association de soutien aux nations amérindiennes ? Ou est-ce que c'est resté des contacts avec les Indiens lorsqu'ils venaient en Europe ?
Oui, pour moi, c'est comme ça. J'ai jamais été, je n'éprouve même pas ça comme une nécessité pour se battre avec eux, les soutenir. Mais disons, un jour, j'ai beaucoup d'invitations et j'aimerais bien, une fois, c'est vrai, faire ce voyage.
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Québec très récemment, un petit voyage, mais où j'ai vu pas mal de choses et où j'ai été horrifiée de l'attitude de beaucoup de Québécois qui, à part ça, ont le cœur sur la main, face aux sauvages, comme ils les appellent.
C'est vrai qu'on est très étonné de l'attitude des Québécois et les événements récents d'il y a deux étés.
Surtout que les Québécois luttent aussi pour leur identité et leur langue. Ils devraient comprendre les autres qui étaient là bien avant eux.
Tout à fait. Alors, je voulais juste dire à nos auditrices que toutes les musiques que vous allez entendre ont été choisies par Anne-Françoise qui nous les a apportées. Alors, peut-être chaque fois, elle nous présentera en deux mots ce que nous écoutons. Tout à l'heure, on vous l'a dit, c'est les musiques du sud-ouest des États-Unis. Là, maintenant, avant de parler de quels sont les objectifs de lutte aujourd'hui des Indiens et quelles sont les répercussions, par exemple, pour l'ASNA, j'aimerais juste qu'on écoute la deuxième musique, les flûtes. Anne-Françoise, qu'est-ce que c'est, alors, cette
Bien.
Flûte ?
La flûte et la voix humaine et le tambour sont au fond les 3 éléments tout à fait authentiques de la musique amérindienne. Et même dans le sud, donc au début il n'y avait ni guitare, ni même les instruments à cordes n'existaient pas. C'est peut-être pour ça que je les affectionne particulièrement. J'aime bien ce qui est authentique. Et ces flûtes viennent de l'Amérique du Nord, de différentes ethnies. Thank you.
Je ne sais pas si vous avez, vous autres auditrices et auditeurs, des images devant les yeux à mettre derrière cette magnifique flûte, mais je crois qu'on peut s'imaginer aussi bien, puisque c'est ici une flûte Zuni, le sud-ouest des États-Unis, très désertique, avec des grandes mesas qui dominent la plaine. Et puis les villages qui sont tous réunis et accrochés ensemble. Je ne connais pas beaucoup plus pour pouvoir vous donner plus d'images que celles-ci. Vera, alors quelles sont aujourd'hui les actions très concrètes qu'ont cherché à mener les Indiens pour essayer de se faire reconnaître comme nation à nouveau et non pas simplement comme minorité disparue de certains États modernes?
Voilà, alors vous avez parlé tout à l'heure de certaines actions spectaculaires qui ont été l'œuvre du mouvement indien américain dans les années 70 et qui ont été en fait un appel à la conscience du monde, c'est-à-dire des actions effectivement spectaculaires pour rappeler tout simplement que les Indiens existent et ne n'appartiennent pas seulement au passé. Alors il y a eu effectivement l'occupation de l'île d'Alcatraz, l'occupation de Wounded Knee, etc. Aujourd'hui, ils ont essayé de lutter sur le plan international par leur présence à la sous-commission des droits de l'homme. Et puis sur place, il y a des luttes constantes par rapport aux droits à la terre, les droits de chasse, droits de pêche. Ce qu'ils demandent, c'est en fait une reconnaissance de leur tradition, de leurs coutumes, un droit d'exercer leurs croyances religieuses. À ce propos, j'aimerais juste dire que j'ai entendu pour la première fois citer à la télévision, parmi les grandes religions du monde, les religions animistes. Et c'était dans la voix de Sadruddin Aga Khan, qui citait non seulement le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc., mais aussi les religions animistes. Et il est grand temps que celles-ci soient effectivement reconnues comme appartenant au patrimoine de l'humanité. Et une des choses, ce que les Indiens des États-Unis, par exemple, souhaiteraient, c'est de pouvoir s'organiser et vivre comme ils l'entendent sur les réserves et non d'être sans arrêt sous la tutelle du Bureau des Affaires indiennes. Ils luttent énormément pour la reconnaissance des traités. Il y a environ 400 traités qui ont été passés, signés et reconnus par le gouvernement des États-Unis entre les nations amérindiennes et les États-Unis, et qui n'ont jamais été respectés. Par exemple, un des plus scandaleux, c'est le traité sur les Black Hills. Les Black Hills sont les montagnes sacrées des Sioux. Elles ont été restituées aux Sioux par un traité qui devait être éternel, comme terre indienne sacrée. Et quelques années après, on a découvert de l'or dans les Black Hills. Les chercheurs d'or et les colons ont envahi les terres. Et comble de l'irrespect, on a sculpté dans les Black Hills, sur le mont Rushmore, les têtes de 4 présidents américains. Et les Sioux se battent encore aujourd'hui pour qu'on leur restitue ces montagnes sacrées. Il y a de grands combats aussi dans plusieurs réserves concernant l'exploitation du sous-sol. On avait laissé aux Indiens les mauvaises terres et puis tout à coup on s'est rendu compte que sous ces mauvaises terres il y avait des richesses. Il y a des grandes réserves d'uranium, de pétrole, de charbon. Et ces Indiens à qui on a pratiquement tout pris, eh bien on essaye encore aujourd'hui, les grandes compagnies essayent d'encore le grignoter des terres sur les réserves qui leur restent. Alors ça, c'est le combat des Indiens des États-Unis aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des grandes différences d'une tribu à l'autre? Parce que j'imagine que ces combats se font quand même à la fois tribu par tribu ou réserve par réserve, et puis en même temps l'ensemble des Indiens réunis.
Mais disons, la méthode, c'est l'occupation et la résistance. Il y a actuellement dans le sud des États-Unis une lutte qui se prépare, enfin qui a déjà commencé et qui va certainement prendre de l'ampleur. C'est les Apaches qui veulent défendre leur montagne sacrée. Voilà encore une montagne sacrée qui a été souillée, parce que c'est bien ainsi que nous, on ressentirait la même chose si on venait envahir nos cimetières ou nos églises. Et par le projet, il y a un grand projet de construction d'un observatoire sur la montagne sacrée des Apaches. Alors comment est-ce qu'on peut réagir à ça par l'occupation ?
Il y a, je crois, je ne sais pas si on peut appeler ça un conflit, mais quand on commence à lire quelques livres concernant les Indiens, on s'aperçoit qu'ils sont parfois partagés entre ce qu'ils appelleraient les traditionalistes et les gens qui se veulent intégrer dans la vie moderne d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une chose qu'on retrouve fortement quand on est vraiment dans les choses, dans ces luttes?
On retrouve ça, bien sûr, évidemment. Et puis les gouvernements et les grandes compagnies savent très bien utiliser ça. Et ça, c'est pas nouveau, disons. On peut dire que ça date depuis le début de l'invasion des États-Unis, depuis le début des guerres indiennes, où les Blancs ont toujours essayé d'utiliser certains contre Indiens contre d'autres. C'est une tactique de colonisateur.
Mmh. Et ça se matérialise sur quel type de choix, par exemple, aujourd'hui ?
Oh ben, y a eu un conflit, par exemple, dont on a pas mal parlé, entre différentes tendances chez les Mohawks pour accepter ou non des casinos et des machines à sous sur les réserves. Et il y a eu même, malheureusement, c'est extrêmement triste, des combats armés entre différentes factions. Ça ne peut être qu'attristant.
Quand on lit le livre de Mary Crow Dog, Lakota Woman, elle parle beaucoup de ce dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, la religion, elle évoque tout ce qui tourne autour du peyote. Je ne sais pas comment... Bon, c'est un cactus en partie hallucinogène, si j'ai bien compris, et qui, effectivement, à un moment donné, a été interdit à d'usage aux Indiens, étant considéré comme une drogue. Et ils ont réussi, finalement, à faire admettre que cela faisait partie de leur rite religieux et qu'à ce titre-là, ils avaient le droit de le consommer. Est-ce que c'est ce type de lutte-là qu'ils mènent quand vous parlez de faire reconnaître leur religion ?
Non, parce que le peyote n'est pas généralisé. Le culte donc, du peyote n'est pas généralisé. Mais c'est leur vision du monde. Que cela soit respecté. Et leur rite. Parce que, par exemple, dans les prisons, ils doivent lutter pour avoir le droit d'avoir leur religion, de pratiquer leur religion, alors qu'au fond, la loi les autorise.
Qu'on leur laisse les objets qui sont liés
voilà.
à leur pratique.
Oui. Et c'est tout, en général, ils n'ont pas la possibilité, comme aussi les huttes de sudation. Mmh. Tout ça leur est... Vous savez, la loi, c'est une chose, mais l'application de la loi, c'est une toute autre chose.
Beaucoup de danses ont été interdites aussi, qui étaient des danses sacrées.
Oui, mais ça, maintenant, c'est bon. La danse du soleil était interdite, mais elle a quand même toujours été pratiquée dans des coins reculés, donc ça ne s'est jamais perdu. Mais maintenant, ils peuvent de nouveau la pratiquer officiellement, si on veut. Et c'est une chose extrêmement importante pour eux.
Donc on peut dire que, sans parler de ce conflit traditionaliste ou moderniste, mais la vie traditionnelle, la vie quotidienne des Indiens existe encore fortement. Elle n'a pas été totalement écrasée par le colon américain, européen.
Non, c'était beaucoup trop fort. L'Indien a courbé les chines, mais sa culture et sa religion et son identité, elle était toujours là, simplement veilleuse. Et heureusement maintenant... Il y a un réveil.
Donc ça résiste, par exemple, au fait que beaucoup d'Indiens quittent les réserves pour aller chercher du travail en ville, sont souvent parqués quasi dans des ghettos indiens dans les grandes villes. Ce genre de tradition persiste et résiste à ce mouvement-là.
Oui, et puis il y a eu un grand retour, justement, dans les années 70. Beaucoup de jeunes ont essayé de retrouver leurs racines, leur culture. Mais ça s'est jamais vraiment complètement perdu, parce que ce qui est la force des Indiens, c'est justement leur spiritualité. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde qui est totalement à l'opposé de la nôtre, qui est tellement différente, qu'ils ne peuvent pas s'adapter à notre système. Ce n'est pas possible. Parce que pour eux, l'être humain fait partie du cycle au même titre que les plantes, que les animaux. Il n'est pas le dominateur de la nature, comme nous le voyons.
Tout à fait, c'est ça. L'homme, par le progrès, domine la nature.
Et les Indiens n'entrent pas dans cette vision. Mmh. Ils ne peuvent pas.
Est-ce que... Ce que j'ai entendu, tout en lisant toujours, ma référence, c'est hélas les livres seulement que j'ai lus, en lisant toujours le livre de Mary Crow Dog, elle évoque l'American Indian Movement, qui est donc un mouvement qui, semble-t-il, s'est beaucoup battu, qui a organisé Wounded Knee, l'occupation du bureau d'affaires indienne, et qui était très persécuté, visiblement, à un moment donné. Les gens étaient arrêtés pour un oui ou pour un
encore
non,
maintenant.
Parce qu'ils faisaient partie de ce
encore
mouvement.
Encore maintenant.
Encore maintenant.
Oh, oui.
Encore aujourd'hui, je vous parlais donc de ce soutien que nous avons fait à Léonard Pelletier, qui est un des fondateurs du mouvement indien-américain, est, disons, un système à part. Il y a eu même des assassinats, tout simplement. Mais à part ça, un des systèmes qu'utilise le gouvernement quand il veut faire taire un dirigeant indien qui est un peu trop bavard ou un peu trop respecté ou qui dit les choses trop clairement, c'est de trouver un chef d'accusation contre lui, et puis ça se trouve, et puis au besoin, on le fabrique, et on met cet Indien en prison, et puis après, on l'oublie, tout simplement. Et il y a l'exemple, par exemple, d'un militant du mouvement indien-américain qui a été libéré dernièrement après 12 ans de prison, dont 8 passés dans le couloir des condamnés à mort. Et il a été libéré sans explication, pratiquement, c'est-à-dire le nouveau jury a simplement décrété que le premier jury avait été raciste. C'est tout. Et Léonard Peltier, actuellement, est en prison depuis 16 ans et demande la révision de son procès, qu'il n'obtient pas. Et il est clair que s'il y avait révision du procès, il serait immédiatement libéré parce qu'il est avéré maintenant que les preuves pour son arrestation ont été entièrement fabriquées par le FBI.
Donc accusé d'avoir assassiné un policier.
Deux agents du FBI, ouais. Voilà. Mais les preuves ont été fabriquées, enfin c'est prouvé maintenant, c'est su, c'est même reconnu. Mais il faudrait une révision du procès, et celle-ci est constamment demandée.
Mais on dit qu'on ne revise jamais un procès aux États-Unis. On pleure sur les gens qui ont été martyrs, comme Sacco Evansetti.
En tout cas, on a la preuve en tout cas qu'il y a une grande mauvaise volonté de ce côté-là, dans le pays, le plus grand pays démocratique, soi-disant.
Et alors, l'American Indian Movement est toujours un mouvement indien très fort aujourd'hui, au-delà des années 70 où il s'est créé?
Oui, même s'il fait moins parler de lui, disons, il essaye de faire un travail constant dans les réserves. Et une de ses créations très, très intéressantes et très importantes et qui est à soutenir, c'est la création des écoles de survie. Comme leur nom l'indique, c'est des écoles pour la survie de la culture, de la langue et de l'histoire indienne. Donc c'est des écoles qui sont gérées par des Indiens et pour des Indiens.
Parce qu'on dit, moi j'avais lu dans tout à fait autre chose, qu'effectivement il y a des gestes même très très simples comme celui de vouloir toucher tout le temps un gamin indien qu'il ne supporte pas, c'est pas lié à sa façon de vivre et à sa tradition, et même nous avec toute la meilleure volonté du monde, il y a des choses qu'on saisit pas et qui fait que c'est difficile de faire cohabiter les deux cultures.
Bien sûr, il peut y avoir des rencontres, des échanges, etc. Mais chaque culture a ses particularités et chaque culture a un droit de vivre au soleil.
Mais il y a aussi quelque chose qui me surprenait dans cette idée d'école de survie. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas une façon d'introduire une nouvelle ségrégation après avoir demandé l'intégration? Si je pense au mouvement noir qui s'est beaucoup battu pour avoir les mêmes droits que les Blancs, est-ce que les Indiens ne sont pas en train de faire un autre type de marche dans l'autre sens?
Mais le but des Indiens n'est pas et n'a jamais été de s'intégrer dans le système américain. Donc il ne s'agit en fait pas du tout d'une marche arrière pour eux. Il s'agit de conserver leur culture, non seulement de la conserver, parce que dans l'idée de conservation, il y a une idée comme ça figée, mais de la faire vivre et de la projeter vers un avenir. C'est ça surtout. Et l'avenir, c'est les enfants.
Et donc ils imaginent mal autre chose qu'une cohabitation.
Exactement, une cohabitation. Ils peuvent imaginer une société pluriculturelle, par exemple une cohabitation, mais leur but n'a jamais été l'intégration dans le système occidental ou disons américain.
Thank you. Vous êtes